Bonjour à tous, c'est Océane, on est sur Clem Radio et aujourd'hui je reçois une personne très spéciale. Alors c'est pas un élève, ce n'est pas un enseignant, mais c'est un écrivain. Je vous présente aujourd'hui Monsieur Thomas Scotto. Donc bonjour Thomas.
Bonjour, bonjour à toutes et tous.
Et je suis accompagnée de la médiathèque aussi. Donc bonjour Madame.
Alors, madame, c'est Sabrina Robert. Donc, je suis bibliothécaire donc, dans la médiathèque voisine du lycée, la médiathèque Roland-Florian de Ribécourt.
Super, une belle présentation. Je vais poser des questions à ce fameux écrivain, accompagné de Madame Coudet aussi,
Oui,
qui
bonjour,
va
toujours présente.
toujours présente. Donc, Monsieur Thomas Scotto, est-ce que vous êtes prêt?
Je suis absolument prêt, mais peut-être tu peux même dire Thomas, ça suffit. Parce que souvent, les enfants que je vois dans les classes ou les ados, c'est vrai qu'ils disent Thomas Scotto, c'est comme si c'était une entité propre, mais je pense que là, n'hésite pas à dire juste Thomas si tu veux, il n'y a pas de problème.
Thomas, est-ce que vous êtes prêt?
Oui, je suis prêt.
C'est parti. Donc, première question un peu basique. Qui êtes-vous?
Ben, c'est basique, mais en même temps, effectivement, j'imagine bien que personne ne me connaît forcément. Donc, alors, j'écris de la littérature jeunesse et ado depuis maintenant 26 ans. Donc, ça commence à faire un petit bout de temps. J'ai aussi le grand plaisir de faire beaucoup de lectures à voix haute. Donc, j'ai créé ma compagnie de lecture à voix haute. Et là où je suis très, très heureux d'être ici, bah, là, effectivement, interviewé par toi, et puis en présence de Sabrina, de Solène, de la médiathèque, et voilà, c'est que moi, mes histoires, mes livres, ce que je fais, très honnêtement, ne pourraient pas vivre, n'existeraient pas s'il n'y avait pas des médiathèques, des libraires, des professeurs pour vous présenter tout ça. Donc, forcément, je suis heureux.
Eh bien, c'est un plaisir pour nous aussi, bien sûr. Donc, on va passer aux questions un peu plus dans le sujet de votre métier, du coup. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à être écrivain?
Oh, il y a plusieurs choses, même si, bah, par exemple, en première, c'est pas du tout ce que je voulais faire, ou en terminale non plus, puisque je voulais être pâtissier. Donc ça n'avait rien à
Ah,
voir.
bah,
Et
pas du tout.
puis, non, pas tellement. Et sauf qu'au lycée, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, j'ai fait un lycée théâtre, en fait, avec option théâtre, très lourde. Et là, c'était, tu sais, ce genre de révélation, comme si la lumière m'était tombée dessus. Fini la pâtisserie que je voulais quand même faire depuis l'âge de 6 ans, donc ça m'avait tenu très très longtemps, j'avais fait des stages, etc. Et non, après j'ai voulu faire du théâtre. Et puis bah, après, ce qui s'est passé, c'est que je suis devenu papa à 21 ans, et je pense que, évidemment, tu t'en doutes, tout a été bouleversé. Bon, ce qui m'a arrangé, c'est que ça m'a permis d'arrêter les études, ça c'était super, puisque je me suis occupé de mes filles, mais il a fallu que, voilà, que je trouve quelque chose à faire, mais je voulais trouver une activité qui se fasse depuis chez moi. Je voulais pas quitter ma fille qui venait juste de naître. Et très honnêtement, j'adorais écrire depuis toujours. Je pense comme toi, je l'ai compris. Et c'est ça qui a fait que. Et j'étais surtout un grand, grand lecteur. Et grand lecteur de livres pour la jeunesse et ados. Et c'est cette chose-là qui a fait que j'ai un jour envoyé ce que j'écrivais, assez prétentieusement, j'imagine, mais faut pas trop que je réfléchisse, à un éditeur, une éditrice. Et puis c'est comme ça que ça a
Et
commencé.
ça a tout marché.
Oui, alors là, c'est trop gentil. Ça n'a pas tout marché tout de suite, mais suffisamment rapidement quand même pour que je ne désespère pas et finalement que je fasse d'un métier quelque chose que je n'avais même pas appris en fait.
D'accord. Et donc, vous avez écourté des études de lettres, à ce que j'ai appris sur Internet. J'ai
Oui.
fait des recherches sur vous. Est-ce que ça s'est ressenti sur vos premiers écrits?
Est-ce que ça. Je crois pas. En vrai, je crois pas, parce que j'étais un grand lecteur, parce que j'étais habitué à ce qu'on me raconte des histoires depuis longtemps. Donc j'ai été toujours habitué aussi à ce pouvoir de la voix, justement. C'est aussi génial de passer en radio pour ça, parce que tu peux être mal maquillé, mal coiffé, mal habillé, on s'en fiche. On peut ne pas avoir mis de rouge à lèvres aujourd'hui et être quand même superbe, parce que la voix passe. Et donc, je pense pas que les études un peu écourtées ont joué là-dessus. Non, je crois pas. Je crois pas.
Vous ne regrettez absolument rien.
Ah non, je regrette pas du tout parce que j'avais, très honnêtement, moi, j'avais pas un plan de carrière non plus. Hein. Ça se trouve, j'aurais pu être tout à fait en plus pâtissier et écrivain. C'était pas, ça pouvait marcher. J'aurais pu faire du théâtre et écrivain. Donc c'est ça qui est assez génial dans l'écriture. C'est voilà, on l'apprend pas. Il n'y a pas un diplôme d'écrivain. Il n'y a pas, on passe pas un bac d'écriture d'histoire en particulier. Et là où je pense que c'est une grande force, c'est que même au bout de 26 ans, moi, j'apprends encore à écrire toujours, 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 toujours. Donc non, ça me dérange pas.
En parlant d'études, est-ce que vous pensez que les études de lettres sont obligatoires pour l'écriture ?
Elles sont pas obligatoires, je suppose, parce que, par exemple, quand j'étais au lycée, je me rappelle, on avait, en tant que section théâtre, la grande chance d'aller au théâtre gratuitement. Donc ça, c'était super. Tous les spectacles, on pouvait y assister gratuitement. Qui nous accompagnait ? Toujours les profs de maths. Jamais les profs de français. Alors, notre prof de théâtre nous accompagnait, les profs de français ne nous accompagnaient jamais. Alors, est-ce que c'était parce que c'était encore du boulot de français, etc. Et par contre, les profs de maths, ils étaient là. Donc, je sais pas si les études de lettres étaient forcément obligatoires pour appréhender les émotions de la littérature. Par contre, je sais que ça m'a aidé. C'est sûr, parce que j'ai des professeurs de français qui m'ont fait découvrir des autrices et des auteurs que j'aurais jamais découvert par ailleurs. Donc ça, je les remercie énormément.
Bah, en parlant d'auteurs que vous avez connus, est-ce que vous avez eu des influences pour ce métier ?
Des influences, oui, je pense que j'en ai eu une qui est primordiale, parce que c'est une autrice, alors c'est particulier, c'est une autrice de chansons. Donc je suis une chanteuse, que j'écoutais quand j'étais petit, que j'ai rencontré quand j'étais grand, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire, j'adorais écrire des chansons pour enfants. Et peut-être que c'était justement grâce à elle, en fait. Et avec la grande naïveté de mes 20 ans, quand j'ai voulu savoir si c'était bien ce que j'écrivais, parce qu'il faut bien qu'on le confronte, je me suis dit, tiens, si je lui envoyais ces chansons-là. Cette femme-là s'appelle Anne Sylvestre, elle est morte il y a assez peu de temps, malheureusement, et elle m'a répondu. À l'époque, c'était préhistorique, on avait ce qu'on appelait les fax, et j'ai reçu un fax un jour, ça faisait un bruit énorme, sauf que à la fin de la lettre, il y avait marqué Anne Sylvestre. Je te jure, j'ai couru dans l'appartement, j'étais trop fou, et très gentiment, elle me disait, je peux pas les chanter parce que je chante mes chansons, je peux pas les produire parce que je produis mes chansons, mais je peux en faire les musiques. La chose s'est jamais faite, mais par contre, jusqu'à sa mort, j'ai eu cette chance, mais comme plein de gens, en fait, de la côtoyer, de lui faire lire mes histoires. Et donc peut-être que sans le savoir, tu vois, ce genre de personnes qu'on rencontre, moi je crois vraiment aux rencontres. Et elle a compté beaucoup, beaucoup. Il y a aussi cette prof de français en première, à qui j'ai fait lire un poème d'amour, bien sûr. J'étais le spécialiste des poèmes d'amour. Enfin, je croyais que je l'étais.
C'était destiné pour elle ?
Non, pas du tout.
D'accord.
Ah, c'est une bonne question, mais non, non. Et heureusement, parce que la réponse qu'elle m'a faite, heureusement que c'était pas pour elle, sinon j'aurais été vraiment très déçu. Elle m'a rendu une semaine après, on se revoyait, je suis plus en cours. Elle avait absolument pas corrigé les fautes d'orthographe. Et ça, je la remercie encore aujourd'hui. Sauf que, en me retendant ce poème d'amour, qui en vrai était nul, hein, elle me dit, Thomas. Je m'appelais déjà Thomas à l'époque, n'écrivez pas comme les autres. Et là, en première, je ne sais plus quel âge on a, j'ai pris ça, mais un peu comme une claque. Hein. Je me dis, oh là là, ça veut dire que c'est nul en fait. Là, elle est en train de me dire, c'est nul, donc je vais arrêter d'écrire. Et ce que je dis aux enfants et aux ados aujourd'hui, c'est que cette phrase de cette prof-là, à ce moment-là, je m'en souviens encore. Ça veut dire que même encore aujourd'hui, j'essaye de ne pas écrire comme les autres. Même si j'écris une histoire d'amour, même si j'écris une histoire qui parle de la mort, les grands sujets comme ça, c'est bien le prisme de l'autrice ou de l'auteur qui va tout changer. Donc il y a plein de gens finalement qui m'ont aidé, et mes parents parce qu'ils m'ont lu des histoires, emmené à la bibliothèque, au cinéma. Donc oui, moi j'ai baigné là-dedans, c'est super.
Donc on peut dire que l'écriture et la musique se sont assemblées pour vous.
Absolument.
Bon, pas que la musique, mais effectivement, ça a joué un rôle clé.
Oui, oui, ça. Ah, bah alors, c'est une super question. Et parce que mon écriture, j'espère qu'elle est musicale. Même si je ne sais pas chanter, pas jouer d'instrument de musique, etc. Quand j'écris, je pense à la musique des mots, toujours. Donc oui, oui, très belle question.
Il y a
question.
La musique qui apparaît dans votre tête quand
oui.
vous écrivez ?
Ouais, oui, oui, tout à fait. Je sais quand je veux faire une phrase longue que je vais la poser beaucoup plus. Quand elle est courte, bah, on est plus sûr de la batterie. Forcément, c'est un rythme qui est différent. Et très souvent aussi dans les classes, je montre aux enfants, je leur lis deux débuts d'histoire et je leur demande lequel j'ai plutôt écrit comme de la harpe, par exemple, ou comme de la batterie. Et je réfléchis vraiment à ça, parce que ça apporte aussi les émotions, le rythme d'une histoire, la musique.
Et vous êtes sûr de ne pas vouloir être chanteur ?
Non.
Musicien, peut-être ?
Non, je crois que ça vaut mieux
vraiment dans l'écriture.
Ouais, ouais, ouais,
ça vaut mieux.
Oui, oui, ça vaut
d'accord.
mieux.
D'accord. Ouais. Tout d'abord, on va parler de vos premiers romans. J'ai lu comme quoi c'était Les Briglettes de Timéo.
Ah oui, c'est vieux ça, les Briglettes. C'était une histoire de lunettes. C'était
je vous rappelle
le
souvenir.
Ouais, tout à fait.
Donc, est-ce que vous pourriez nous en parler?
Oui, alors de solutions en particulier, je ne sais pas, parce que c'est vraiment pas... Tu vois, il n'existe plus, et je crois que la littérature jeunesse s'en porte parfaitement bien, que ce livre-là n'existe plus. Mais quoi qu'il arrive, des premiers textes, oui, c'est... ils étaient fondateurs, mine de rien. Moi, j'ai toujours voulu écrire pour tous les âges. Peu importe. Et tout genre d'écriture. Mon tout premier livre, c'est un livre de petite poésie pour les enfants. Ensuite, j'ai voulu faire un petit roman. Comme j'étais un grand lecteur de livres pour la jeunesse, je crois que je connaissais, même à 21 ans, 20 ans, assez bien ce qui se faisait en librairie. Assez bien les collections, assez bien vers quel éditeur je voulais aller. Mon premier éditeur, c'est Actes Sud. Et j'en suis content parce que les livres étaient beaux. En plus, je trouve qu'un livre, quand il est à la fois beau à l'intérieur et à l'extérieur, bon, a priori, t'as vraiment envie de le prendre. Là, ils avaient un papier magnifique et c'était superbe. Les Biglettes de Timéo dont tu parles, c'est vraiment une histoire pour dédramatiser, en fait, le fait d'avoir des lunettes quand on est enfant, quand on est petit. Mais je crois que ça n'avait pas plus de prétention que ça. Et je crois que j'aime autant la littérature plaisir que la littérature à message engagé, la littérature qui pose des questions. Et nous, on a cette chance-là de pouvoir tout faire. Et c'est ce qu'on retrouve à la médiathèque, évidemment, de Ribécourt. Quand tu vois dans les étagères de la médiathèque, il y a forcément, et encore plus, tous ces genres de livres-là.
Alors, j'ai une petite question... Par rapport à vos lunettes, je vois que vous avez des lunettes.
Oui, les biglettes, évidemment qu'on se sert de qui on est, de ce qu'on vit, pourquoi pas. Mais je me rappelle bien avoir écrit cette histoire et ne pas avoir ressenti ce que l'enfant ressentait dans mon histoire. Donc on n'est pas obligé d'avoir vécu l'histoire pour l'écrire le mieux possible. Moi, j'ai, par exemple, mes histoires les plus tristes, je ne les ai jamais écrites parce que j'étais... absolument déprimé, triste ou... Non, au contraire, je crois que j'ai besoin d'être heureux dans ma vie pour écrire jusqu'aux histoires tristes, en fait. Donc, peut-être que les biglettes avaient une petite part de personnel parce que j'ai des lunettes, mais après, ça s'arrête là, en fait.
D'accord. Et je me permets d'intervenir à propos de Ma tempête de neige, où là, tout à l'heure, vous disiez que vous aviez arrêté les tutos, vous avez été papa à 21 ans. Tiens.
Bon, là, c'est vrai que toute ressemblance avec... Mais encore une fois, c'est très, très romancé, mais c'est vrai que oui, je suis parti, quoi qu'il arrive, pour Ma tempête de neige, qui est l'histoire, qui est un monologue, en fait, d'adolescent, de grand adolescent, il a 19 ans, et il va être papa. Et c'est son cri d'amour pour ce bébé à venir. Donc là, même si je ne raconte absolument pas comment c'est passé, moi, voilà. Mais oui, par contre, j'ai mis tout cet amour-là, oui. Là, c'est évident, ouais. Ouais.
Alors, vous parlez beaucoup des enfants dans vos livres, j'ai remarqué. Par contre, j'ai remarqué aussi la couverture de vos livres. Elles sont très enfantines. Par contre, à l'intérieur, je trouve que ce n'est pas vraiment pour les enfants. Est-ce qu'il y a une explication?
Ah, mais j'aime bien ce que tu dis. C'est-à-dire que ça montre aussi que, en tant qu'auteur, on ne gère pas tout de la fabrication d'un livre. Les couvertures, elles m'échappent bien souvent. J'ai mon petit mot à dire, mais c'est quand même l'éditeur ou l'éditrice qui a le dernier mot. Donc, je ne sais pas exactement de quelle histoire tu parles. Alors, par exemple, pour Ma tempête de neige, ça a été une bataille, cette couverture, que je n'aime pas. Au final, je l'aime toujours pas parce que c'est une collection pour adolescents qui est assez méconnue en fait, qui est une suite de monologues. C'est le principe de la collection qu'on peut à la fois hurler ou chuchoter. Les histoires sont très très fortes. Ce sont des textes courts, mais où on se prend quand même pas mal de petites claques, soit des claques de joie, soit des claques de tristesse. Mais cette couverture, je l'aime pas. Et se trouve sur la couverture un petit ours en peluche, un petit nounours. Et il n'y a aucun adolescent qui ouvre ce livre-là. Et je me suis battu, hein. Je leur ai demandé de ne pas mettre ça. Donc j'ai pas géré ça. Après, qu'elles sont enfantines, parce que souvent j'écris pour les enfants, enfin même totalement pour les enfants et les ados. Par contre, ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, on peut ne écrire pour les enfants sans que ce soit bétifiant, sans que ce soit simpliste. Et c'est peut-être ça qui fait la différence parfois avec nos éditeurs qui font des couvertures pour les vendre, les livres. C'est un objet de vente en fait.
Il n'y a même pas du tout de magie pour les enfants en général. Donc c'est pour ça que je me suis interrogée, parce que déjà, les mots étaient assez poussés dans le vocabulaire et j'ai trouvé ça étrange pour des enfants.
Il me semble que tu parlais de Au fil des contes. Hein.
Au fil des contes.
Par exemple.
Ah, exactement. Oui. Ah, mais c'est bien d'avoir un exemple, ça m'aide. Au fil du conte, c'est-à-dire que je ne mets pas forcément, alors sauf quand j'écris... dans une collection précise de livres où je sais à peu près pour quel âge c'est, je ne me mets pas de frein sur l'âge qui sera concerné. Au fil du compte, en plus, c'est chez un éditeur qui n'est pas du tout regardant là-dessus, qui est chez un éditeur que j'aime énormément, qui s'appelle les éditions du Pourquoi Pas. Et les éditions du Pourquoi Pas, ils nous donnent une belle liberté. Ils sont très engagés. Et au fil du compte, il est dans une collection qu'ils ont créée, une collection de manifestes. Donc moi, c'est un manifeste féministe. Et je ne me suis pas dit à partir de quel âge on pourrait le lire. Donc, bon, après, j'imagine bien, oui, tu vois, on va pas lire ça aux enfants de 3 ans. Et quoique, si ça fait de la musique, pourquoi pas, en fait, encore une fois. Mais, par contre, que la couverture soit un peu enfantine, ça me plaisait, parce que, en plus, le travail de Frédéric Bertrand, qui est une grande illustratrice jeunesse et adulte aussi, je trouve que son dessin, il apporte vraiment quelque chose qui permet de réfléchir aussi.
Oui, parce qu'on parle quand même de choses très... Comment dire, qu'on ne pourrait pas parler à des enfants.
Océane, est-ce que si... Tu te souviens quand tu étais enfant, si tu me permets?
Oui.
Est-ce que si tu avais lu Au fil du compte à ce moment-là, et comment tu l'aurais perçu? Est-ce que tu arriverais à te souvenir de ça? Est-ce que tu dis qu'on ne peut pas lire aux jeunes enfants ce genre de texte, ou en termes de compréhension peut-être, tu veux dire?
Oui, j'ai quand même remarqué qu'il y avait un but de toutes ces histoires, il y avait un message caché très pour les femmes, mais j'aurais pas du tout compris, et je trouve ça dommage du coup. Et donc il aurait fallu quand même, peut-être, je dis peut-être, des mots un petit peu plus enfantins. Mmh. Après c'était très beau.
Mmh. Alors bon, franchement, j'adore ce que tu dis, parce que ça me conforte dans l'idée que moi, j'aime le travail de la langue. Je trouve qu'au contraire, pour les enfants, il ne faut pas qu'on abandonne ça, le travail de la langue. On doit leur offrir de la littérature, tu vois ce que je veux dire? Alors effectivement, les noyer dans quelque chose qu'ils ne comprendraient pas, c'est peut-être un peu dommage. Sauf que moi, alors très honnêtement, au fil du compte, je commence à le lire en CM1, CM2, à peu près. Ils ont 9-10 ans, un peu, je crois. Et bien sûr que quand je commence à lire, je vois leur regard qui est complètement perdu. Ils ont un espèce de sourcil qui se relève. Sauf que il y a toujours quelqu'un dans la classe, quand je termine l'histoire et qu'on commence à en parler, qui me dit « Moi, là, quand vous dites « j'ai bu au bol qu'on me présentait », les bols, c'est marrant, ça m'a fait penser à Boucle d'or et les trois ours. » Et là, toujours, je remercie ou la fille ou le garçon, l'être humain, peu importe. Je remercie parce que je dis « là, tu vois, avec ta réflexion, tu viens de nous donner la clé de l'histoire. » Et petit à petit, en offrant ça, toute la classe se met à réfléchir et s'aperçoit que, ah bah oui, et là c'est tel conte, et là c'est tel conte, ça s'appelle Au fil du compte. Et petit à petit, en fait, j'aime l'idée qu'un livre, c'est pas un livre médicament. J'aurais pu, je pourrais par exemple écrire Petit Paul à deux papas. Pourquoi pas, je veux dire. Mais ça m'embête. Ça m'embête parce que ça, j'ai l'impression, et ça rejoint ce que ma prof français m'avait dit, tout le monde peut l'écrire. Alors que si j'amène l'enfant à comprendre que Petit Paul a deux papas, et que quoi? Ça change quoi? Bon, pas grand-chose. Ça va me plaire beaucoup plus. Donc, je fais ce travail de réflexion-là. Et puis, au niveau des mots, ça s'appelle Au fil du compte, celui dont tu parles. Et moi, je voulais cette écriture aussi belle qu'un conte. Les contes sont pas faciles, en vrai. Tu lis Petit Poucet, tu lis Chaperon Rouge. La langue, elle est super compliquée. Elle n'est pas si facile, en tout cas. Moi, je veux cette exigence-là pour les enfants. Mais j'entends ce que tu dis. Après, encore une fois, il n'y a aucun enfant de 3 ans qui va s'y intéresser. Il n'y a pas tous les CM1, CM2 qui vont s'y intéresser. C'est pas grave. Ce livre-là, même, évidemment, il est parfois dans les CDI de collège ou de lycée, parce qu'il est court, mais il n'est pas pour les petits, comme tu dis.
Et donc, vous pensez que, justement, ces petits ont compris le message?
Allez, ceux que j'ai rencontrés plein de fois de 9-10 ans, oui, au final, oui. Oui, parce que, très honnêtement, en plus, voilà, ce girl power, on en parle quand même pas mal. Alors, je ne l'ai pas écrit que pour les filles, je l'ai écrit aussi pour les garçons. Par contre, même en l'écrivant, tu sais, j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire parce que je me suis posé la question de la légitimité, moi, en tant qu'homme de 50 ans, d'écrire un texte qui prenne la voix d'une fille, qui passe de conte en conte pour dire là, vous m'avez fait ça, là, vous m'avez fait ça, sans nommer les contes en plus, en les faisant deviner. Et on a même présumé que j'épouserais mon père. Et moi, je préfère la fuite. Pas la fuite pour reculer, au contraire, la fuite pour me forger mon propre horizon de liberté. Moi, en tant qu'homme de 50 ans, je me dis, est-ce que j'ai le droit de l'écrire? Bon, après, j'ai deux filles, j'ai deux sœurs, je suis baigné, j'ai écouté Anne-Sylvain, je crois que, voilà, tout ça fait que je me suis dit, bah oui, en vrai, bien sûr que j'ai le droit, peu importe, au contraire même, voilà.
Donc, vous avez quand même voulu dénoncer des actions de la vie d'aujourd'hui. On va surtout parler des femmes et des comportements des hommes envers les femmes qui sont un petit peu mal menés. Il y a un but peut-être pour vos enfants.
Oui, même si tu sais quoi, elles n'ont même pas besoin de moi. C'est ça qui est assez génial. C'est vrai que Mathilde et Cassandre, mes deux filles qui sont grandes maintenant, puisqu'elles ont 29 ans et 26 ans, moi je les ai toujours affublées de textes féministes, de films féministes, de chansons féministes, de t-shirts féministes, de tote bags féministes. Et je crois que Cassandre, quand elle avait 18 ans, c'était... je lui offre un tote bag. Dessus, il y avait marqué ta main sur mon cul, ma main dans ta gueule. Je me suis dit, là, au moins, c'est bien, c'est super. Sauf qu'elle me regarde avec un air pas du tout désolé, mais en me disant, écoute, tu sais quoi, je crois que c'est ton combat à toi, ça, papa. Et là, sur le moment, j'ai pas compris. J'ai dit, non, forcément que c'est ton combat aussi, t'es une fille. Et en fait, on a beaucoup parlé, on en a énormément parlé, et... Finalement, elle était entourée de gens assez très très convaincus, garçons, filles, peu importe. Elle n'était pas encore dans le monde du travail. Quand même, elle se faisait déjà siffler dans la rue. Évidemment, au lycée, c'était pas top. Mais elle avait une espèce de regard convaincu sur cette notion d'égalité, moi, auquel je crois, mais plus que tout, c'est viscéral, quoi. Et voilà. Et de fait, j'avais écrit un autre texte qui parlait déjà d'égalité. Et on a fini par en faire une lecture dansée tous les deux, parce qu'elle est danseuse. Et donc, on s'est réunis sur ce même projet, alors qu'elle m'avait dit que c'était pas son combat à elle. Donc oui, forcément que c'est aussi pour mes filles, bien sûr. Mais c'est pour... C'est aussi très égoïste, hein, c'est pour moi. C'est parce que, en tant qu'homme, par exemple, après je vais m'arrêter, promis, mais en tant qu'homme, tu vois, quand la chanson de Eddie De Preto est sortie, Kid, mon Kid, je sais plus comment elle s'appelle, cette chanson. Oh, mais en tant qu'homme, mais j'aurais aimé tellement l'entendre quand j'étais ado. Parce que moi, j'étais de ces garçons... pareil, de ces garçons qui n'étaient pas bagarreurs, qui étaient plutôt à jouer avec les filles, mais exactement la chanson. Et je me suis dit, tout ça, ce ne sont que des avancées. Et finalement, plus on sera nombreuses, plus on sera nombreux à parler pour, je crois, tout le monde, peut-être on s'en sort dans la vie. Et c'est aussi pour ça que je crois que les médiathèques sont des points de richesse absolus et qu'on devrait... Et les CDI, moi je crois fort aux CDI, d'y aller plus, parce que tout est là. La littérature nous sauve de beaucoup de choses, beaucoup.
Donc on peut dire que vous êtes un homme qui a vu le monde avec ses défauts. Et qui a voulu jouer le papa poule avec son métier, mais papa poule avec un petit peu toutes les femmes, du coup.
Ah, c'est joli, disons. j'aurais pas cette prétention-là, mais oui, c'est joli. Et j'aime beaucoup ton idée de regarder le monde. C'est-à-dire qu'il y a un auteur qui s'appelle Philippe Dorin, qui écrit beaucoup de théâtre, que j'avais lu déjà assez jeune, et je trouvais qu'il avait quelque chose d'assez joli. Alors, il disait que pour voir les faits, il fallait regarder... un tout petit peu à côté, comme ça. Il fallait se mettre un tout petit peu à côté et que là, on commençait à voir les faits. Et moi, je crois que c'est vrai pour la vraie vie, ça, justement. C'est-à-dire que l'auteur, l'autrice, l'interprète, le chanteur, le créateur ou la créatrice, si on dit la vie de tous les jours comme elle est dans la vie de tous les jours, est-ce que c'est si intéressant que ça ? Peut-être pas. Si on regarde un tout petit peu de côté et qu'avec ce regard neuf, on en parle... Là, peut-être, ça fait littérature. Là, peut-être, ça fait chanson. Là, ça fait art, peut-être aussi. Voilà.
Alors, d'autres questions. On va replonger un petit peu dans d'autres livres. J'ai remarqué aussi le visuel de certains de vos livres. Je n'ai plus le nom en tête, celui qui est d'un sens de l'autre.
Oui. J'en ai écrit plusieurs qui sont comme ça. Il y en a un qui s'appelle « Déserts sauvages et balles perdues ».
Oui.
C'est celui-ci ?
Oui.
Ouais. Celui-ci, il est toujours chez cet éditeur qui s'appelle Les Éditions du Pourquoi Pas. Bon, je pense qu'ils n'entendront pas la chronique, donc peut-être je vais pouvoir dire que je trouve qu'ils ont un peu copié sur les éditions du Rouergue, qui ont déjà cette collection-là.
On ne leur dira pas.
Non, on ne leur dira pas. Une collection qui s'appelle Boomerang. Là, celui dont tu parles, c'est un magnifique cadeau qu'on m'a fait. Parce que l'autrice qui est de l'autre côté, mais qui est la première à avoir écrit, s'appelle Jo Osland. Et Jo Osland, elle a un passé d'écriture déjà long, peut-être plus de 50 ans, c'est une femme de 75 ans, je crois. Et Jo, c'est ma marraine d'écriture. C'est-à-dire que quand j'avais 23 ans, quand je sors mon premier bouquin, je rencontre cette femme-là, on me la met, enfin, on me met un peu dans ses bras un soir, enfin pas ses bras, pardon, dans ses mains pour se débarrasser de moi, et elle, avec son passé d'écriture qu'elle avait déjà, moi je la lisais hein, déjà, Jo Osland, eh ben, je sais pas, elle m'a pris sous son aile, et puis elle m'a toujours accompagné. Elle a une écriture simple, mais qui dit beaucoup. Franchement, moi, je conseille tout lycéen, tout être humain de lire du Jo Osland. Très, très fort. Et elle avait écrit ce texte-là, « Balle perdue », qui part en fait d'un principe assez simple. Elle se rappelle, elle, de son enfance. Je ne sais plus si ses parents ou grands-parents, parce que moi, je suis nul en histoire, donc je ne saurais pas faire le calcul. Bref, dans sa famille, on avait un hôtel-restaurant en 1914. Et... elle explique comment la jeunesse était insouciante, comment le soir on poussait les tables, on prenait un accordéon, on se mettait à danser, les filles draguaient les garçons draguaient les filles, c'était encore en direct, c'était chouette, et du coup, sauf qu'un soir, rentre dans la pièce quelqu'un qui se met à hurler « Ils ont tué Jaurès, on a tué Jaurès ». Et c'est comment cet attentat-là, cet assassinat, va déclencher beaucoup de choses, et la guerre, et tout, et tout. Et en fait, moi, on m'a demandé d'écrire un texte en regard à celui de Jo Osland, mais un texte d'aujourd'hui, un texte qui pourrait se passer aujourd'hui.
Ah, donc c'est une réécriture.
Alors, j'ai pas réécrit son texte à elle, en vrai, mais je me suis, oui, par contre, je me suis beaucoup inspiré, parce qu'elle, elle parle de musique, justement. Je me dis, tiens, moi, comment je vais pouvoir placer la musique dans mon texte? Je veux pas mettre un accordéon dans mon texte, il se passe de nos jours. Comment je vais pouvoir reparler de Jean Jaurès, que, à mon avis, aucun lycéen véritablement connaît, à part si, ça peut être un nom de lycée, un nom de collège, un nom de rue. Bon, bah, j'en ai pris un nom de rue. C'est 6 adolescents qui font du skate rue Jean Jaurès, n'importe où, ça peut être n'importe où. Et il va se passer quelque chose d'assez dur qui va aussi briser leur innocence. Et donc, oui, bien sûr que alors, j'ai pas copié, mais j'ai essayé de reprendre des choses d'elle. Donc, ça, c'était un beau cadeau d'édition. Je trouve, de pouvoir écrire un texte avec sa marraine d'écriture.
Et pourquoi ce choix de mise en page l'un de l'autre droit et l'autre de l'autre sens?
Bah, ça, c'est vraiment un principe d'édition. Hein. Tu sais, là, pour le coup, nous, ça nous échappe aussi. C'est vraiment ce côté tête-bêche. On peut commencer par n'importe laquelle des histoires. Et puis, au final, quand on a lu les deux, elles se font écho. Voilà. Il y a même des pages au milieu qui ne sont que de l'illustration, qui sont faites par Manon Carcenti, qui est une toute jeune illustratrice, mais qui fait de très très jolies choses. Et ça m'échappe. Donc, je n'ai pas véritablement la réponse.
Vous n'êtes pas maître de la mise en page de vos livres, en fait?
Pas maître de la mise en page, et même parfois pas maître du titre qui est choisi au final. Alors aujourd'hui, c'est plus tout à fait vrai parce que je me bats jusqu'au bout pour avoir mon titre. Mais quand j'ai commencé, j'osais pas trop. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec des titres qui, en vrai, n'étaient pas du tout dans le goût de... Enfin, ne donnaient pas toute l'ampleur de ce que je voulais dire. Ou en disaient trop, au contraire. Mon premier titre, enfin, à part celui des Poésies chez Actes Sud, mon second, on va dire, c'était un livre aux éditions Bayard, dans une collection qui s'appelle « Les belles histoires ». Ça sortait en magazine d'abord, en maison de la presse, et après c'était publié. Et ben, si je te dis le titre, tu vas savoir exactement de quoi ça parle. Alors c'était pour les enfants de 3 ans, 3-4 ans. Hein. Ça s'appelle « La rentrée de la petite sorcière ». De qu'est-ce qui va pouvoir se passer dans ce livre qui s'appelle « La rentrée de la petite sorcière ».
Donc il y aurait une petite sorcière qui rentre à l'école.
Eh ben bravo.
Et je pense qu'elle se fait un petit peu moquer.
Eh ben voilà, t'as tout. Voilà, bravo. Déjà, donc tout était là. Et ça, je le dis aux enfants aussi. Moi, je sais, très honnêtement, je me rappelle plus quel était mon titre de départ. Et je pense qu'il n'était pas bon parce que c'était mes premiers livres. Je ne savais pas trop comment ça se passait. Mais aujourd'hui, non, j'essaye de faire attention. Parce qu'un titre, c'est la première clé avec la couverture pour rentrer dans le livre. Alors évidemment, s'il y a une belle couverture, t'as envie d'y aller. Si le titre te questionne un peu, bah, t'as peut-être encore plus envie de tourner les pages ou la quatrième de couve. Et donc, tout ça participe. Donc, on n'est pas maître de tout, loin de là. Mais, et puis, je pense que c'est bien aussi que chacun soit aussi un peu à sa place. Hein. Moi, la maquette d'un livre, je ne sais pas la faire. Hein, donc, c'est aussi pour ça qu'on a nos éditeurs, les graphistes qui sont là.
Et à propos de maquette, quand on a préparé cette rencontre, on s'est fait la réflexion, hein, Océane, que vous avez souvent des livres de formats originaux, d'ailleurs très compliqué à ranger dans les médiathèques et les CDI, c'est un vrai problème pour nous. Mais en, hein, au CERN, on s'est dit quand même, il y a quelque chose. Quoi. C'est, oui. Mais c'est, est-ce que c'est un choix de votre part, du coup ?
Non, c'est pas un choix, mais par contre, je m'aperçois effectivement que c'est pas... Comme en fait, ces livres-là ne rentrent pas dans des collections, justement. C'est pas les Folio Gallimard, c'est pas... Bon, bah, de fait, les éditeurs s'amusent un peu. Mais non, c'est vraiment, vraiment pas de mon fait. Non, vraiment pas.
Mais vous n'êtes pas trop déçu, du coup ? Parce que c'est quand même vos débuts et ils ont été un petit peu changés. C'était pas votre décision. C'est pas décevant ?
Si, si, t'as raison, il y a eu des déceptions. Hein. Il y a eu vraiment des déceptions. Et puis, il y a même une fois où je me suis, alors pas battu avec mes petits poings parce que je suis non-violent, mais où je me suis battu avec une éditrice qui voulait absolument pour un roman qui était destiné aux collégiens. Et assez précis parce que le garçon est en cinquième. Eh ben, elle voulait vraiment mettre le nom de la classe dans le titre. C'est l'histoire d'un ado d'un garçon qui a l'impression d'être malade. Et sa maladie, c'est la banalité aiguë. Il lui arrive rien dans la vie. Alors qu'au collège, il a même des parents géniaux. Il a une petite copine super. Il bosse bien au collège. Bah vraiment, il lui arrive rien, parce qu'au collège, ce qui est génial, c'est d'avoir des parents nuls que tu peux critiquer. Il faut vraiment pas être forcément bon. Et donc, lui, il a l'impression d'être invisible. Et en fait, il est assez tendre, ce garçon, et il va faire quelque chose, malheureusement, sans le vouloir, qui va le faire exister beaucoup, c'est qu'il va mettre le feu à une forêt. Bon, ça, je... Je ne raconterai pas si c'est vraiment arrivé ou pas, mais bon, on en reparlera un autre jour. Et en fait, l'éditrice voulait... Moi, mon titre, c'était, et c'est finalement, juste une étincelle. Parce que dans mon idée, il avait fallu juste une étincelle pour que le feu s'embrase dans la forêt, et que parfois, il faut juste une étincelle pour que ta vie bouillonne un petit peu. Bon, je trouvais ça plutôt intelligent. Bref. Et puis surtout, j'aime quand... Voilà, il y a ce petit mystère ou plusieurs niveaux de lecture. Et elle, ce qu'elle me dit, elle dit, écoute, on a beaucoup réfléchi, on a un super titre à te proposer, c'est La cinquième à fleur de peau. Et là, j'ai cru pleurer au téléphone. Je dis, mais purée, la cinquième... J'avais l'impression que... Je lui ai dit, je dis, oh, mais c'est si mauvais ce que j'ai écrit. C'est si mauvais, quoi, pour avoir La cinquième à fleur de peau. Pourquoi La cinquième ? Parce que, ben, ils se sont aperçus que quand tu mettais le nom d'une classe, ça se vendait très bien pour la classe concernée. Ben, donc, ça veut dire que les sixièmes ne l'auraient pas lu, les quatrièmes ne le liraient pas, les troisièmes non plus. Ce qui est un peu dommage, parce qu'à mon avis, tu pourrais avoir tout le plaisir, le même plaisir. Et à fleur de peau, parce qu'il est quand même à fleur de peau, ton garçon. Bah, je dis, oui, d'accord, mais là, on dirait vraiment... Ça faisait, pour moi, j'avais vraiment l'image de la guimauve, un truc vraiment sucré et vraiment pas bon, quoi. Et je me suis battu pendant six mois. J'ai cherché plein d'autres titres, et un jour, elle m'appelle en disant, écoute, on va y arriver, je crois que là, on a trouvé. Qu'est-ce que tu penses de « Juste une étincelle » ? C'était le premier titre que je lui avais proposé. Et là, comme en politique, tu fais exactement pareil. Tu fais, ah, mais ça, super, merci. Ah, là, c'est une bonne idée. Là, oui, oui, vraiment, bravo. Voilà. Donc, je pense qu'elle a toujours cru que c'était elle qui avait trouvé. Et voilà.
Donc, les déceptions sont parties. Oui. Vous avez pris le dessus. Mm-hmm. Juste au début de l'interview, vous m'avez dit comme quoi il ne suffisait pas de vivre pour écrire. Mm. Sauf que vos sujets sont souvent sur des choses banal de la vie, bon, à part la petite sorcière, où je pense pas qu'il y ait de sorcières dans la vraie vie. Mais c'est quand même des sujets assez banals, tout ce qui est moquerie à l'école, etc. Est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose qui vous fait rappeler votre enfance ou peut-être protéger vos filles de ce que vous voyez de la vie ?
Alors, en vrai, pas du tout, parce que j'ai la chance d'avoir une enfance absolument heureuse, vraiment famille... On s'entend bien, j'ai toujours aimé l'école, parce que j'étais pas très bon, j'étais pas très mauvais, j'étais au milieu, donc personne me voyait trop, c'était parfait. Donc j'ai pas l'impression que c'est forcément, encore une fois, des choses que j'ai vraiment vécues, même si il y a des petites touches. Mais ce que je dis souvent aux enfants, c'est que c'est souvent les choses les plus improbables dans une histoire, qui se sont vraiment passées et que j'ai réutilisées. Tout le reste est pas tout à fait vrai. En revanche... Je me suis aperçu aussi, pendant longtemps, j'ai dit dans les classes que c'était... Non, c'est pas moi, ces livres-là. Non, non. Puis si, en vrai, si. Qu'on prenne le premier jusqu'au dernier, tout est moi, en fait. Dans les livres drôles, moins drôles. Et pourquoi ? Parce que, en fait, tout ce que j'écris part des questions que je me pose. Alors les questions, oui, à bien des égards, c'est la vie de tous les jours, c'est effectivement les, malgré tout quand même des grands sujets, c'est énormément les émotions, ce fil ténu là, la famille parce que t'as mille choses à raconter sur la famille, et voilà. Mais c'est surtout les grandes questions que je me pose qui font que ça me ressemble totalement. Et j'aime énormément me mettre au niveau de l'enfant ou de l'adolescent que je mets en valeur dans le livre. Je pense par exemple à un livre qui est vraiment pour les lycéens, qui s'appelle « Quelques secondes encore », qui est aussi encore un monologue chez un éditeur qui s'appelle Nathan, dans une collection géniale qui s'appelle « Les cours toujours ». Quand on n'aime pas trop lire, à mon avis, ça peut être assez génial. Mais même quand on aime lire. Et en fait, ce « Quelques secondes encore », il raconte, c'est une jeune fille de 16 ans qui raconte. Toi qui, en face de moi, tu vois que je ne suis plus une jeune fille de 16 ans.
Donc... Une fille. je pense qu'on l'entend.
Ah mais c'est vrai, t'as raison. Et du coup, voilà, il a fallu quand même que je me mette à la place de cette jeune fille de 16 ans. Très honnêtement, je me suis mis à la place d'elle très facilement parce que c'est mes émotions à moi que je mets dans les siennes. Et finalement, on peut avoir, peu importe le genre, peu importe ça, on peut avoir des émotions partagées. Cette jeune fille, son frère vient de mourir. Il faisait des parcours de toit en toit, il est tombé, il est en mort cérébrale. Et en fait, pendant tout le temps de ce tout petit roman-là, on est dans le temps de décision si, oui ou non, sa mère va donner les organes de ce fils, de ce frère. Et en fait, cette jeune fille, qui s'appelle Anouk, elle comprend assez vite que sa mère, elle va dire non. Et elle ne peut pas le concevoir. Parce que son frère aurait dit oui, ils avaient regardé des documentaires, il l'avait dit, il l'avait verbalisé. Et en fait, pendant tout le temps, mais c'est très court, hein, je ne sais pas, ça fait peut-être 60 pages, même pas. Pendant tout ce temps-là, elle va prendre sur sa dévastation personnelle pour essayer de rappeler tous les souvenirs vivants de son frère à sa mère. Parce qu'elle se dit, si maman, elle se rappelle de toi vivant, elle ne peut pas dire non à la vie qui continue. Bon, clairement, ce texte-là, je n'ai rien à mettre derrière. Je n'ai pas de personne transplantée. Je ne connais personne à qui c'est vraiment arrivé. Mais je ne peux mettre derrière, en revanche, que les grandes questions que je me pose dessus. Alors, là où je te rejoins, c'est en tant que père, oui. C'est-à-dire, je me suis toujours dit, mais moi, je suis père. Il arrive ça à mon enfant, à mes filles. Je suis à l'autre bout de la France, parce que je suis souvent aux autres bouts de la France que mes filles. Qu'est-ce que je fais ? Je suis convaincu d'un truc, hein, mais qu'est-ce que je fais ? Donc, il y a forcément des parts de vérité, mais après, j'aime aussi je me suis mis vraiment à la place de cette fille qui ne sait pas comment ça se passe, hein, le don d'organes. Moi, j'en sais pas plus qu'elle. Hein. Et puis finalement, je m'aperçois que ce n'est pas un livre là-dessus que j'ai voulu écrire. C'est une histoire de deuil, c'est un deuil. C'est le deuil, et puis c'est le sourire malgré tout, et c'est le sourire qu'on va chercher jusqu'au bout, en fait. Moi, je crois que c'est ce que j'aime le plus, c'est d'essayer de trouver les fenêtres ouvertes pour la vie de tous les jours, en fait.
Vous extériorisez surtout les questions que vous avez dans la tête. Hein.
C'est ça.
Ouais, mais ça rend des choses super belles.
tant mieux, super.
Une dernière question, Thomas.
Bien.
Quelle est la meilleure leçon que vous avez apprise dans l'écriture ?
Alors bon, déjà, c'est la meilleure question qu'on m'ait posée, puisqu'on ne me l'a jamais posée. Quelle est la meilleure leçon qu'on m'ait apprise dans l'écriture ? Alors, deux leçons. Je ne sais pas. Ce qui perturbe et ce qui déroute énormément, c'est comment la lectrice ou le lecteur, et peu importe l'âge, vraiment, comment chacun et chacune s'empare de ce qu'on a écrit. Et mieux encore, s'empare de ce qu'on n'a pas écrit. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime le plus au monde, je crois, c'est écrire le silence. Alors, c'est peut-être un peu bizarre de dire ça. Ouais. C'est-à-dire que, oui, j'écris des mots. Oui, il y a des phrases. Oui, il y a des chapitres. Mais ce que je trouve encore plus beau, mais je pense que c'est vrai pour la littérature entière, c'est tout ce que l'auteur ne dit pas. C'est tout ce qui se cache entre les lignes. Et c'est bien ce qui se cache entre les lignes qui va faire qu'il y aura autant d'histoires possibles que de lectrices et de lecteurs qui vont s'en emparer. Donc ça, pour moi, la plus belle leçon, c'est quand une adulte, mais vraiment adulte, mais même plus qu'adulte, peut-être même, tu vois, c'est-à-dire âgé, prend un de mes livres, un album qui s'appelait Sables émouvants, qui n'existe plus, qui commence à le regarder. Je suis devant elle, on est en salon du livre, elle le prend, elle commence à le lire avec un grand sourire. Puis plus elle lit, plus le sourire s'efface, s'estompe. Et puis plus elle lit, plus je vois ses yeux qui s'embrument. C'est un texte super court. Hein. Et à la fin, elle le referme, elle me regarde, elle me fait juste un petit geste pour me dire qu'elle n'a pas besoin de plus. On est en salon du livre, elle aurait pu vouloir une dédicace ou je sais pas quoi. Pas beaucoup plus et elle s'en va. Bon, déjà rien que moi, ça, qu'un adulte puisse être touché par un livre pour la jeunesse, c'est presque aussi des jolies leçons. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément gagné quelque chose, mais que c'est une littérature à part entière. Et je sais que Sabrina et Solène, qui sont là avec nous aussi, se battent pour que la littérature jeunesse soit de la littérature à part entière. C'est pas de la sous-littérature. Et même des livres pour les 3 ans, ça peut être de la littérature. Cette femme-là, elle est revenue 2 ans après, je refaisais le même salon, et elle est venue me voir, elle me dit « Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, mais... » Et je lui dis « Mais si, si, bien sûr, je me rappelle de vous. » Elle dit « Mais écoutez, je vais vous dire, je n'ai pas pu vous dire sur le moment pourquoi ça m'avait si bouleversé, mais j'avais perdu ma fille de 25 ans. Et en fait, je crois que j'avais sous les yeux exactement les mots que je n'avais pas réussi, moi, à dire. » Et ben ça, tu vois, t'imagines le cadeau monumental, mais t'as rien à dire de plus, en fait, parce que, à part merci, dans la douleur, merci, quoi, parce que... Donc les leçons, c'est pas vraiment des leçons, tu vois, mais je pourrais avoir 1000 anecdotes de choses que j'ai vécues, quoi. Et en bibliothèque, si jamais, voilà, si on peut poser des questions à Sabrina, avec grand plaisir, parce que je trouve, encore une fois, que nos livres n'existent pas s'ils sont pas lus, écoutés et relayés, voilà.
Et que vous nous donniez des émotions, surtout.
Ah, ça c'est encore plus beau. Ouais, ah, ça, oui. C'est sûr.
Une dernière question, une toute petite question. Est-ce que vous avez des conseils pour les futurs écrivains?
Ah, c'est d'arrêter, parce que comme je te disais, ça va me piquer mon travail. Oh, c'est dur de donner des conseils. À part de s'accrocher, à part, d'écouter la musique, la sonnerie du lycée qui sonne, parce que ça peut donner des idées. Moi, je crois que c'est vraiment de ne jamais s'arrêter d'écrire et de... Mais peut-être ça serait la phrase de ma prof de français, c'est de tenter de ne pas écrire comme les autres. Ouais. Et tenter d'écrire sans s'écouter vraiment. Moi, je m'aperçois, hein, des fois, quand je lis mes histoires, je dis « Ouh là, peut-être que ta phrase, tu l'as voulu très poétique, mais avec un mot en moins, elle aurait été pas moins forte. » Tu te serais fait autant plaisir sans que ce soit non plus trop pompeux, quoi. Donc... Non, c'est compliqué de donner des avis.
Je comprends, je comprends. Bah, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions.
Merci beaucoup.
Et vos livres sont bien évidemment au CDI. Donc pour les petits curieux, tout est disponible. Et bah, bonne aventure à vous dans ce monde merveilleux de la littérature. Et c'était Clem Radio. À bientôt.
À bientôt.